Chapitre 33. Germantown, jeudi 1er janvier 1981. Nathalie Preston gisait sur le dos, les mains levées pour se protéger du couteau de Vincent, lorsque la porte d'entrée de Grumblethorpe fut secouée par une explosion à moins de 2 mètres de là. Des échardes jaillirent dans le couloir étroit. Il y eut une deuxième explosion. Nathalie se tourna vers le petit salon situé sur sa gauche et vit la porte donnant sur la rue s'ouvrir brutalement. Dans le silence qui s'ensuivit, la tête de Vincent se redressa, pivotant sur elle-même comme celle d'un robot mal programmé. Le couteau luisait dans sa main droite. Nathalie n'osait ni bouger, ni parler, ni respirer. Il y eut une nouvelle série d'explosions, plus lointaines cette fois-ci. Soudain, une forme sombre se précipita dans le salon, heurtant le fauteuil à oreillette placé près de la cheminée. Un fusil glissa sur le plancher et alla frapper les pieds de la table. Vincent enjamba Nathalie et pénétra dans le salon. Elle aperçut les grands yeux bleus de Marvin Gale alors que Vincent le soulevait, puis elle se mit à ramper vers l'arrière de la maison. Elle faillit hurler sous la douleur qui lui traversa la cheville, mais elle se mordit les lèvres jusqu'au sang et resta silencieuse. Elle entendit de nouvelles détonations devant la maison, puis des bruits de lutte en provenance du salon où Marvin affrontait le monstre blanc. Nathalie se redressa péniblement sur sa jambe gauche, une fois arrivée sur le seuil de ce qui devait être la cuisine. C'était une pièce toute en longueur, aux volets fermés, pourvue d'une immense cheminée, d'une table où brûlaient 2 bougies et d'une porte solidement verrouillée. Un fusil à pompe était posé contre le mur près de la porte. Nathalie laissa échapper un petit gémissement et se dirigea vers l'arme à cloche-pied. Elle était sur le point de l'atteindre lorsque 3 explosions rapides secouèrent la porte. Verrou et gage succombèrent à la 4e et à la 5e tentative et des échardes vinrent se planter dans son bras et sa jambe gauche. Nathalie s'écarta d'un bond de côté, fit porter tout son poids sur son pied droit et heurta la table. Celle-ci se renversa, l'entraînant dans sa chute. La porte subit 2 nouveaux assauts et finit par s'ouvrir. À moins de 2 mètres de Nathalie, la porte du réduit où on l'avait enfermée était entrebâillée, lui offrant un abri de fortune. Elle se précipita dans cette direction, trébuchant dans l'obscurité alors qu'on achevait d'ouvrir la porte à coups de pied. Nathalie reconnut l'un des 2 jumeaux de la bande de Marvin lorsqu'il entra, suivi par un autre garçon. Ils étaient tous 2 armés. Ils se planquèrent aussitôt derrière la table renversée.
« Ne tirez pas !»
hurla Nathalie.
« C'est moi !»«
Qui ça ?»
cria le jumeau. Il se redressa en faisant décrire de brefs arcs de cercle à son fusil à pompe. Nathalie se glissa à l'intérieur du réduit, alors que Marvin Gale entrait dans la cuisine d'un pas mal assuré. Ses bras et son torse étaient maculés de sang, et il laissait traîner la crosse de son fusil sur le sol, comme s'il était trop épuisé pour lever son arme.
« Marvin ! Merde, mec, comment t'es entré ici ?»
Le jumeau se redressa et abaissa son arme. Son compagnon leva la tête de derrière la table. Marvin leva son fusil et tira 2 fois. Le jumeau fut projeté dans la cheminée. Le second garçon roula dans un coin de la pièce, cria quelque chose, essaya de se redresser. Marvin pivota sur lui-même et tira. Le garçon heurta le mur, tomba en avant, et disparut dans un trou invisible parmi les ombres. Nathalie se rendit compte qu'elle était accroupie et qu'elle serrait toujours contre elle son soutien-gorge lacéré. Elle jeta un regard par l'entrebâillement de la porte, et vit Marvin se diriger d'un pas mécanique vers la cheminée afin d'examiner le cadavre du jumeau. Il se retourna et se dirigea vers l'entrée du tunnel. Là, il abaissa son fusil et tira une nouvelle fois. Nathalie regagna en hâte le couloir, laissant choir son soutien-gorge et sentant sa poitrine se couvrir de chair de poule. Une terrible fusillade retentit au dehors.
« Tout ça n'est qu'un cauchemar, » pensa-t-elle. « Je vais sûrement me réveiller d'un instant à l'autre. »
La terrible douleur que lui causait sa cheville cassée lui prouva le contraire. Vincent apparut dans le couloir, les jambes écartées, son long couteau à la main. Nathalie stoppa, s'agrippa au lambrissage. Elle vit sur sa gauche l'escalier qui conduisait à l'étage. Vincent fit un pas vers elle. Nathalie bondit, hurla lorsque sa cheville heurta une marche. Sanglotante, elle entreprit de gravir les degrés, au moment même où la voix de Rob Gentry l'appelait depuis la cuisine. Saul Lasky avait conçu l'attaque du centre de contrôle comme un raid. Frapper vite, semer le plus de confusion possible et se retirer aussitôt l'objectif atteint. L'idéal était de ne blesser personne et d'éviter les échanges de tirs. Mais il espérait secrètement mettre la main sur Colben ou sur Haynes. Lorsque le bulldozer franchit les 20 derniers mètres qui le séparaient des caravanes, il se demanda si sa tactique était sensée. Il y eut une soudaine explosion à sa gauche, et des fleurs de feu s'épanouirent dans l'air lorsque les cocktails Molotov lancés par Taylor et les autres atteignirent les voitures garées dans l'enceinte. La scène fut illuminée par les flammes, et un homme vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate noire sortit de la caravane principale. Il examina les voitures incendiées, puis les deux bulldozers qui s'approchaient, poussa une exclamation inaudible et dégaina son pistolet. Saul était à 10 mètres de la caravane. Il leva la lame du bulldozer pour se protéger et se rendit compte qu'elle lui bouchait la vue. Le bruit du moteur et celui d'une autre explosion l'empêchèrent d'entendre les coups de feu, mais la lame tinta à 2 reprises et il perçut un choc plus sourd sur le radiateur. Le bulldozer ne broncha pas. Saul leva la lame d'une 30aine de centimètres et eut le temps d'apercevoir l'homme qui regagnait l'intérieur de la caravane.
« C'est ici que je descends !»
cria Poisson-Chat, et il bondit par-dessus la chenille gauche, disparaissant dans les ténèbres. Saul envisagea de le suivre, haussa les épaules et s'accrocha à la portière. Il leva la lame de 30 centimètres supplémentaires. Le terrain devenait légèrement pentu près de la caravane, et la lame pénétra dans son objectif à une hauteur d'environ 2 mètres, juste à droite de la porte. Le petit escalier en bois qui permettait d'y accéder vola en éclats lorsque Saul accéléra, se mordant la langue. Il s'adossa au siège, tandis que les chenilles de son engin s'employaient à renverser la longue caravane. Le centre de contrôle tout entier frissonna lorsque le bulldozer conduit par Jackson heurta la caravane 6 mètres plus loin sur la gauche. La mince paroi d'aluminium se tordit et se déchira. Une fenêtre jaillit de son châssis et la chenille du bulldozer de Saul la réduisit en pièces. Saul crut pendant quelques secondes que les lames allaient traverser la caravane de part en part, mais celles-ci rencontrèrent une résistance. Les 2 bulldozers poussèrent et la caravane centrale se sépara des 2 autres avec un atroce grincement, tandis qu'elle commençait à basculer. La porte principale s'ouvrit à quelques 10aines de centimètres de Saul, et le torse d'un homme en émergea, puis un revolver cherchant sa cible, mais la caravane déséquilibrée se renversa enfin. Le bras se dressa vers le ciel, le revolver tira à 2 reprises, puis disparut. Saul passa au point mort et descendit du bulldozer. Jackson s'éloignait déjà de son engin, et les 2 hommes échangèrent un regard épuisé, lorsqu'ils s'abritèrent derrière le pare-choc d'un des véhicules du FBI.
« Et maintenant ?» demanda Jackson au bout d'une minute.
Des hommes rampaient hors des ruines de la caravane renversée. Saul vit une femme que l'on aidait à sortir par une brèche ouverte dans le toit. La plupart d'entre eux étaient en état de choc, restaient assis par terre ou erraient sans but précis comme les victimes d'un accident de la circulation, mais quelques-uns avaient sorti leurs armes. Saul savait qu'il serait ridicule et dangereux de rester où il était. Taylor et les autres étaient invisibles, et il supposa qu'ils avaient déjà regagné le camion.
« Je cherche quelqu'un !» dit Saul.
Il attendit que tous les agents soient sortis de la caravane, pareil à des fourmis fuyant en masse une fourmilière piétinée. Il n'y avait aucun signe de Charles Colben, ni de Richard Haynes. La déception de Saul lui fit l'effet d'une remontée de bile dans la bouche.
On ferait mieux de filer, murmura Jackson. Il commence à se ressaisir.
Saul acquiesça et suivit son compagnon au milieu des ombres. Leroy vit le corps de GB gisant au bord du trottoir et aperçut des éclairs au deuxième étage de la maison d'en face avant de se baisser et de foncer vers la clôture. Des balles à haute vélocité la hachèrent sur sa gauche. Il avait l'impression que certains frères ripostaient depuis le côté ouest de la maison et depuis l'avenue, mais il savait que leur assortiment de fusils et de pistolets ne pouvait pas grand-chose contre les armes des flics fédéraux. Leroy pressa son visage contre le sol glacé lorsque de nouvelles balles atteignirent la clôture.
« C'est dingue, mec » murmura-t-il.
Un corps gisait près du mur, à 20 centimètres du bras droit de Leroy. Il le fit péniblement rouler sur lui-même, entendant des bouteilles teintées dans son sac à dos bon marché. Il perçut une forte odeur d'essence. C'était Dieter Coleman, un élève de Germantown High School et un membre récent de Soul Brickyard. Dieter était sorti deux ou trois fois avec la sœur de Leroy. Celui-ci savait que le garçon s'intéressait davantage au théâtre et aux ordinateurs qu'à la rue, mais cela faisait des années qu'il suppliait Marvin de lui donner une chance de rallier la bande. Le chef lui avait donné cette chance à peine une semaine plus tôt. La balle qu'il avait atteint lui avait arraché la quasi-totalité de la gorge. Leroy retourna le cadavre et tira sur les lanières du sac à dos sans cesser de marmonner entre ses dents.
« T'es vraiment un con, Leroy. Oh merde, c'est toujours toi qui tapes le sale boulot. »
Il serra les lanières à fond, sentit l'essence coulant des bouteilles brisées lui inonder le dos et secoua la tête. Il passa le petit pistolet calibre 25 à sa ceinture et, sans se donner le temps de réfléchir, il ouvrit le portail et se mit à courir de toutes ses forces. Deux coups de feu retentirent. Et quelque chose lui arracha le talon d'une basket, mais Leroy ne s'arrêta pas. Il renversa une rangée de poubelles à l'entrée de la ruelle, puis bondit vers l'escalier de secours.
« Quelle idée à la con »
grommela-t-il en montant les marches 4 à 4. Aucune fenêtre du deuxième étage ne donnait sur la ruelle, rien qu'une porte métallique fermée et dépourvue de loquet extérieur.
« Connard ! Connard !»
murmura Leroy. Et il s'accroupit à droite de la porte. Il fouilla les poches de son blouson et de son pantalon. Il n'avait pas d'allumette, pas de briquet, rien. Il riait de bon cœur lorsque trois ombres jaillirent dans la ruelle depuis l'arrière du bâtiment. De son poste d'observation, 10 mètres au-dessus du sol, Leroy vit leurs visages blancs, leurs mains blanches, lorsqu'ils se tournèrent vers lui et levèrent leurs armes.
« T'es coincé, mec !» marmonna-t-il.
Il pressa son visage et son ventre contre le mur de briques lorsque la première balle ricocha sur la rambarde dans un jaillissement d'étincelles. La deuxième traversa la semelle de sa chaussure droite, faisant bondir sa jambe vers le haut. Leroy la sentit soudain s'engourdir et regarda le trou noir et fumant qui ornait sa basket.
« Vous déconnez, les mecs !» murmura-t-il.
La porte d'acier s'ouvrit et un homme vêtu d'un costume sombre s'avança sur l'escalier de secours. Il portait un fusil d'allure bizarre. Leroy lui arracha son arme et le frappa à la gorge avec la crosse, le forçant à se pencher en arrière au-dessus de la rambarde, tout en maintenant la porte ouverte de sa jambe blessée. On cessa de tirer en bas, mais Leroy aperçut les visages blancs qui se déplaçaient en quête d'un angle de tir. L'homme se débattit, cracha, griffa le visage de Leroy d'une main, l'autre tentant d'éloigner le fusil de sa gorge. Leroy pesa de tout son poids sur l'homme, le forçant à s'arquer un peu plus en arrière.
« T'as du feu, mec ? » murmura-t-il.
Il entendit un bruit de pas derrière lui. Leroy enfonça sa main gauche dans la poche de l'agent et en sortit un briquet en or.
« Merci, mon Dieu ! »
dit-il à haute voix. Et il laissa choir l'homme et son fusil dans la ruelle, 10 mètres plus bas. Il entra dans l'immeuble, alors même que les balles recommençaient à voler.
« Est-ce que tu as eu ce... »
commença un autre blanc armé d'un pistolet. Il y en avait trois autres près de la fenêtre, où des armes et des télescopes sophistiqués étaient disposés sur des trépieds. Leroy aperçut des sièges pliants, une table de camping couverte de boîtes de conserve et des radios posées contre le mur.
« Plus un geste !»
hurla le blanc, et il braqua son pistolet sur la poitrine de Leroy. Les mains de celui-ci s'élevaient déjà. Son pouce actionna la molette. Il sentit la chaleur de la flamme contre son oreille droite. « C'est bien ma veine, putain, du premier coup !» dit Leroy. Et il laissa tomber le briquet dans le sac à dos, bourré de bouteilles de super sans plomb. Anne Bishop était à un demi-pâté de maison de Grumblethorpe lorsque se produisit l'explosion. Elle continua de rouler à 25 km à l'heure, les mains crispées sur le volant de la DeSoto, les yeux grands ouverts fixés droit devant elle. Toutes les fenêtres de l'immeuble situé en face de Grumblethorpe éclatèrent en mille morceaux. Une pluie de verre diamantine s'abattit sur Germantown Avenue. 30 secondes plus tard, les flammes apparurent. Anne Bishop se gara devant Grumblethorpe et passa au point mort. Obéissant à un réflexe vieux de plus de 30 ans, elle serra soigneusement le frein à main. Les flammes montant du bâtiment étaient beaucoup plus brillantes à présent, éclairant d'une lueur orange Grumblethorpe et toute une fraction de l'avenue. On entendit une succession saccadée de coups de feu. 50 mètres plus loin, une demi-douzaine de silhouettes aux longues jambes traversèrent la chaussée au pas de course. Juste à côté de la roue avant droite de la DeSoto, un garçon gisait face contre terre au bord du trottoir. Une petite flaque noire s'élargissait autour de son crâne fracassé. L'immeuble en feu était le théâtre d'un concert de craquements, comme si on brisait des centaines de brindilles. Les munitions explosaient de temps en temps, avec un curieux bruit de pop-corn en train de griller. Quelqu'un hurla au loin. Puis vint la plainte aiguë des sirènes. Anne Bishop resta assise dans sa DeSoto 1953, les yeux fixes, les mains sur le volant, attendant la suite des événements. Gentry s'était engouffré dans la maison par la porte de derrière, le rugeur braqué devant lui. Une table renversée lui offrait un abri et il s'était tapi derrière pour examiner les lieux. La vieille cuisine était éclairée par une chandelle posée sur l'évier et une autre tombée sur le sol. Le jumeau du nom de G.R. gisait dans une immense cheminée à 2 mètres de Gentry, son anorak déchiqueté de la gorge au bas-ventre. Les plumes de la doublure recouvraient le visage, le torse et les jambes du cadavre. Le reste de la cuisine était vide. Une porte étroite donnant sur un réduit ou une petite pièce était restée grande ouverte, l'empêchant de voir le couloir. Gentry braqua le rugeur sur la porte du réduit, entendant des bruits dans le couloir. Il se rendit compte qu'il respirait beaucoup trop vite et qu'il était sur le point de suffoquer. Il retint son souffle durant une dizaine de secondes. Dehors, les coups de feu cessèrent quelques instants et Gentry entendit un grattement dans l'ombre derrière lui. Il pivota sur son genou et découvrit Marvin Gale qui semblait émerger du sol de pierre comme un homme sortant d'une piscine. En dépit de la faible lumière, Gentry remarqua que son visage était dénué de toute expression, que ses yeux n'étaient que des fentes blanches où les iris étaient à peine visibles. « Marvin ?» Au moment où Gentry prononçait son nom, l'adolescent leva un fusil à pompe de l'espèce de trou où il se trouvait, visa la tête de Gentry et appuya sur la détente. « Clic !» fit le percuteur. Gentry leva son rugeur, alors même que Marvin armait et tirait une deuxième fois. Le chien de son fusil ne rencontra que le vide. Gentry avait appuyé sur la détente assez fort pour faire se relever le chien du rugeur. Il le bloqua avec son pouce et le fit doucement retomber. « Merde !» dit-il à voix basse, et il bondit sur le grotesque simulacre de Marvin, alors que celui-ci achevait d'émerger de l'entrée du tunnel. Le garçon était plus petit et moins lourd que Rob Gentry, mais il était aussi plus jeune, plus rapide, et animé d'une énergie démoniaque. Gentry ne voyait pas comment triompher de lui dans un combat à la loyale. Il n'attendit pas d'avoir trouvé une méthode. Il arriva dans le coin de la pièce alors que Marvin finissait de se redresser et fit décrire un arc vicieux au rugeur, frappant l'adolescent à la tempe avec son long canon. Marvin s'effondra, roula sur lui-même et s'immobilisa. Gentry s'accroupit près de lui, trouva son pouls et leva les yeux à temps pour découvrir le monstre blanc debout près de la porte du réduit. Gentry tira deux fois. La première balle ricocha sur la pierre à l'endroit où l'apparition s'était tenue une seconde plus tôt. La seconde transperça la porte du réduit. Il entendit un bruit de pas dans le couloir. De dehors lui parvint le bruit étouffé d'une explosion.
« Nathalie !»
hurla Gentry. Il attendit une seconde, hurla de nouveau.
« Par ici, Rob ! Sois prudent, il !»
La voix de Nathalie se tut. On aurait dit qu'elle était au bout du couloir. Gentry se redressa, écarta la table de son passage et courut vers elle. Nathalie avait rampé le plus haut possible sur l'escalier, espérant à tout le moins pouvoir décocher un coup de pied dans la tête de Vincent lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Elle se força à cesser de regarder par-dessus son épaule et à lever les yeux vers le palier. Mélanie Fuller se dressait en haut des marches, à moins d'un mètre de la tête de Nathalie. Elle portait une longue chemise de nuit en flanelle, sa robe de chambre rose bon marché et ses pantoufles en peluche rose. Les chandelles de la nurserie éclairaient un visage sans âge, des rides qui se perdaient dans des replis de peau rongés jusqu'au tendon, un crâne qui s'efforçait d'échapper à un masque de chair morte. Ses cheveux bleus dressés sur sa tête semblaient trop rares. Des plaques de cuir chevelu tavelé apparaissaient ici et là, comme si ses cheveux étaient tombés par paquets sous l'effet de la chimiothérapie ou de quelques drogues. L'œil gauche de Mélanie Fuller était fermé et grotesquement enflé. Son œil droit se réduisait à une espèce de bille jaune. Elle sourit, et Nathalie vit que la partie supérieure de son dentier s'était détachée de ses gencives. À la lueur des chandelles, sa langue semblait aussi sombre que du sang coagulé.
« Quelle honte, ma chère !» dit Mélanie Fuller. « Couvrez votre nudité !»
Nathalie frissonna et pressa les lambeaux de son chemisier contre ses seins. La voix de la vieille femme n'était qu'un râle sifflant. Son souffle empestait la décomposition. Nathalie tenta de ramper vers elle, de refermer ses mains sur ce cou étique.
« Nathalie !»
La voix de Rob. Elle s'agrippa aux marches de bois et l'appela. « Où était Vincent ?» Elle essayait d'avertir Rob lorsque Mélanie Fuller descendit trois marches et lui toucha l'épaule du bout de sa pantoufle rose.
« Chut, ma chère !»
Gentry apparut dans le couloir, revolver à la main. Il aperçut Nathalie et ses yeux s'écarquillèrent.
« Nathalie, mon Dieu ! Rob ! »
cria-t-elle, utilisant les dernières secondes de liberté accordées à son esprit.
« Fais attention, le monstre blanc est là !»«
Chut, ma chère !» répéta Mélanie Fuller.
La vieille femme inclina la tête sur le côté et examina Gentry avec une intensité de dément.
« Je sais qui vous êtes !»
murmura-t-elle, un jet de salive jaillissant de son dentier mal fixé.
« Mais je n'ai pas voté pour vous !»
Gentry regarda derrière lui, en direction du salon et de la porte d'entrée. Il posa le pied sur une marche, s'adossa au mur et leva son revolver pour le braquer sur le torse de Mélanie Fuller. La vieille femme secoua lentement la tête. Le revolver s'abaissa comme sous l'effet d'une puissante force magnétique, trembla, s'immobilisa, resta braqué sur le visage de Nathalie Preston.
« C'est ça !»
siffla Mélanie Fuller. Un spasme secoua le corps de Gentry. Ses yeux s'élargirent et son visage devint de plus en plus cramoisi. Son bras tremblait violemment, comme si chaque nerf de son corps luttait contre les ordres envoyés par son cerveau. Sa main se serra sur la crosse du revolver. Son doigt se crispa sur la détente.
« Oui !»
souffla Mélanie Fuller. Sa voix était pleine d'impatience. Un flot de sueur inonda le visage de Gentry et macula sa chemise, visible entre les pans de son blouson. Les tendons saillirent sur son cou et les veines sur ses tempes. Son visage était un masque de supplicié, le visage d'un homme engagé dans un suprême effort mobilisant toutes les ressources de son esprit, de ses muscles et de sa volonté. Son doigt pressa la détente, la relâcha, la pressa assez fort pour relever le chien du revolver, la relâcha. Nathalie ne pouvait pas bouger. Elle regarda ce masque de supplicié et ne vit que les yeux bleus de Rob Gentry.
« Ceci prend trop de temps !» murmura Mélanie Fuller.
Elle se passa une main sur le front, l'air épuisé. Gentry tomba en arrière, comme s'il avait affronté au tir à la corde des titans qui venaient de lâcher l'autre bout. Il recula en trébuchant dans le couloir et glissa le long du mur, laissant tomber le revolver par terre dans ses efforts pour reprendre son souffle. Nathalie vit une expression d'exultation envahir le visage de Rob durant la fraction de seconde où leurs regards se croisèrent. Vincent jaillit du salon et balaya l'air deux fois de son couteau. Gentry hoqueta et porta les deux mains à sa gorge comme s'il espérait pouvoir refermer sa blessure béante. Il sembla y réussir pendant 3 secondes, puis le sang coula entre ses doigts, jaillit en quantité inimaginable le long de ses mains, de ses bras et de sa poitrine. Gentry glissa de travers jusqu'à ce que sa tête et son épaule gauche viennent doucement toucher le sol. Il ne cessa pas de regarder Nathalie jusqu'à ce que ses yeux se ferment lentement, tels ceux d'un petit garçon avant une sieste réparatrice. Son corps fut agité par un spasme, un seul, puis se détendit dans la mort.
« Non !»
hurla Nathalie, et elle bondit au même instant. Elle avait gravi 8 marches. Elle les descendit la tête la première, heurtant si violemment la dernière qu'elle sentit quelque chose se rompre dans son épaule gauche. Elle ignora le choc, ignora la douleur, ignora les doigts qui frôlaient son esprit comme des papillons tapant à la fenêtre, ignora le second choc lorsqu'elle roula sur le plancher dur, sur les jambes de Rob, contre les jambes de Vincent. Nathalie ne perdit pas de temps à réfléchir. Elle laissa son corps faire ce qu'il avait à faire, ce qu'elle lui avait ordonné de faire il y avait une éternité de cela, avant qu'elle ne bondisse de l'escalier. Vincent vacilla au-dessus d'elle, agitant les bras pour recouvrer l'équilibre qu'il avait perdu lors de leur collision. Il dut faire pivoter son torse pour lever son couteau sur elle. Nathalie n'hésita pas un instant. Elle roula sur le dos, laissa sa main droite retomber sur le revolver, sachant parfaitement où il se trouvait, le leva et visa. Elle tira dans la bouche grande ouverte de Vincent. Le bras de Nathalie heurta le plancher sous l'effet du recul, et l'impact de la balle souleva Vincent dans les airs. Il alla frapper le mur à plus de 2 mètres au-dessus du sol et laissa une traînée de sang sur sa surface en retombant. Mélanie Fuller descendit lentement l'escalier, ses pantoufles raclant mollement le bois des marches. Nathalie essaya de se hisser sur son bras gauche, mais tomba en travers des jambes de Rob. Elle abaissa son arme et parvint à adopter une position assise. Elle dut chasser les larmes de ses yeux avant de pouvoir braquer le revolver sur Mélanie Fuller. La vieille femme était à 1,50 m de distance, 2 marches au-dessus d'elle. Nathalie s'attendait à sentir des doigts plongés dans son esprit pour la saisir, la stopper, mais rien ne se passa. Elle appuya sur la détente. 1 fois, 2 fois, 3 fois.
« Il faut toujours compter ses cartouches, ma chère, » murmura la vieille femme.
Elle descendit les marches, enjamba Nathalie et se dirigea vers la porte en traînant les pieds. Elle s'arrêta et regarda derrière elle.
« Au revoir, Nina. Nous nous retrouverons. »
Mélanie Fuller jeta un dernier regard sur le couloir et sur la maison, déverrouilla la porte en ruine, sortit dans une rue éclairée par les flammes, et disparut. Nathalie lâcha le revolver et éclata en sanglots. Elle rampa jusqu'à Rob, le tira par les épaules jusqu'à ce qu'il soit dégagé du corps de Vincent et lui posa la tête sur sa jambe. Du sang macula aussitôt son pantalon, le plancher, tout le reste. Elle essaya d'éponger le blouson et la chemise de Rob avec les lambeaux de son chemisier, mais finit par y renoncer. Lorsque Saul Lasky et Jackson arrivèrent 5 minutes plus tard, alarmés par les flammes, les sirènes et de nouvelles détonations, ils la trouvèrent ainsi, la tête de Rob reposant toujours sur son giron, en train de lui chanter une berceuse et de lui caresser tendrement le front.